Bien, bonjour à tous. Alors, il y a malheureusement un petit changement de programme. Le premier intervenant prévu, Carmine Pisano, a eu un problème d'avion, si je puis dire. Heureusement, sans gravité pour lui, mais bien pour sa venue à Paris. Parce qu'il est resté coincé à Rome ce matin, et donc il lui était impossible matériellement de nous rejoindre. Donc nous aurons une conférence et pas deux. Mais il n'y a pas de problème, nous allons avoir un après-midi très intéressant. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Yann Berthelet. Alors Yann Berthelet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est agrégé d'histoire depuis 2006. Il a été à l'ENS d'Ulm de 2003 à 2007. Et il a soutenu en 2012, et c'est ce qui explique notamment sa présence, enfin l'invitation que je lui ai lancée. Il a soutenu en 2012 une thèse à Paris et en Sorbonne, sous la co-direction de Jean-Michel David et de John Scheid, thèse intitulée, je lis le titre pour ne pas me tromper, « Gouverné par les signes divins, recherche sur l'autorité divinatoire publique sous la République et au début du Principat ». Et ce livre qui s'appelait « Gouverné par les signes divins », cette thèse, pardon, est devenue un livre avec un titre plus percutant encore, « Gouverné avec les dieux, autorité, auspice, pouvoir sous la République et au début du Principat ». Et donc, c'est évidemment cet intérêt de Yann pour la question de l'auctoritas et aussi de la potestas qui m'a conduite à le solliciter pour venir. Alors normalement c'était à titre de comparaison avec Carmine Pisano, mais nous sommes suffisamment d'hellénistes ici pour arriver à faire le contrepoint. Et donc après, je termine la mini-biographie de Yann, donc la publication de ce beau livre, et puis un post-doc, enfin, en même temps que la publication, un post-doc à la Fondation Thiers de 2013 à 2015, et puis en 2015, Yann a été nommé enseignant-chercheur à l'Université de Liège. Donc ça veut dire qu'il a fait le chemin de Paris à Liège pendant que je faisais le trajet inverse. Et globalement, pour le dire en deux mots, ses recherches actuelles portent sur les dieux romains, c'est-à-dire comment aborder la question de ce qu'on appelle les panthéons, les différentes configurations, ce qui est une source évidemment de comparaison très intéressante avec ce que nous faisons du côté grec. Et puis, si je ne m'abuse, il y a un livre en préparation sur la consecratio, dont nous souhaitons voir la publication très bientôt, si la charge de cours autorise de prendre un peu de temps pour la recherche. Et donc aujourd'hui, Yann va nous parler de l'auctoritas, une conception romaine de la cité et de ses rapports aux dieux. Et je lui cède immédiatement la parole, sachant, mon cher Yann, que tu peux te déployer puisque tu es seul en scène.
Moi, j'ai minuté.
Non, tu peux prendre le temps. Tu n'as pas besoin de te presser.
Je plaisantais, j'avais compris ce que tu voulais dire. Merci, Vinciane. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais t'adresser, cher Vinciane, mes remerciements appuyés pour ta très aimable invitation ici au collège que j'ai plaisir de retrouver, lieu que j'ai suivi, fréquenté en tant qu'étudiant bien des années. Donc merci beaucoup, Vinciane, merci à tous les auditeurs d'être présents, c'est important pour ceux qui parlent. Et donc merci infiniment à vous d'être là, même si vous étiez peut-être là pour Carmine, je ne sais pas, donc je dis ça en rigolo. Merci à vous toutes et tous. Et donc, Vinciane m'a demandé de réfléchir en partant de mon livre, certes, mais sans redire ce qui est dans mon livre, d'essayer de voir si ce que j'avais développé dans le livre sur l'auctoritas pouvait ou non nous aider pour réfléchir à la relation des hommes des Romains mortels avec leur Dieu. Car le titre de mon livre est un peu trompeur à cet égard, « Gouverner avec les dieux ». C'est un titre que m'a imposé, que m'ont imposé les belles lettres. Voilà, ça fait vendre. Le vrai titre du livre, c'est le sous-titre. Voilà. Et donc, j'y parle en réalité peu, à mon avis trop peu, des dieux. C'était un peu lié au cheminement intellectuel qui avait été le mien jusqu'au moment où j'ai fait la thèse. Et donc, c'est vrai que j'abordais surtout la question de l'auctoritas dans une réflexion horizontale, dans une réflexion sur le partage des pouvoirs, pouvoirs pris ici dans un sens très large, entre les différents pôles institutionnels de la cité, le Sénat, les prêtres, les magistrats. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, sans avoir pu accorder la préparation de cette conférence toute l'année, sans cours, sans administration, sans rien qui aurait été nécessaire pour faire une vraie conférence. Et salut, j'avais pas vu. Donc voilà, j'ai essayé, donc, sachant que c'est une préparation en temps limité, de proposer aujourd'hui une réflexion un peu plus verticale. Voilà. L'auctoritas, donc, une conception romaine de la cité, de ses rapports aux dieux. Donc je pense que vous avez tous l'exemplier, peut-être pas les dernières personnes arrivées, si ? Parfait. Donc dans l'introduction d'un ouvrage collectif sur l'auctoritas, une notion constitutive de la culture politique, publiée chez Ausonius en 2020, vous avez à chaque fois les références sur l'exemplier, bien sûr. Jean-Michel David, qui est donc l'un de mes deux directeurs de thèse avec John Scheid, et Frédéric Hurlet, rappelait combien, je cite, « l'auctoritas se rencontrait dans tous les segments de la société romaine. Religion, droit, magistrature, sénat. Et au cœur de toutes les formes de pouvoir à Rome. Elle est donc sans conteste, écrivait-il, une valeur partagée par les citoyens romains, un point tel qu'on peut aller jusqu'à dire que les Romains vivaient sous un régime d'autorité. » Donc c'est page 16 dans l'introduction de cet ouvrage collectif qui a un peu fait office d'hommage à Jean-Michel David, un peu, hein, cet ouvrage. Sans aller jusque-là, dans mon ouvrage intitulé « Gouverner avec les dieux, autorité, auspice et pouvoir sous la République romaine et sous Auguste », publié aux Belles Lettres en 2015, j'avais proposé de considérer que la conception romaine du partage des pouvoirs à Rome ne reposait pas, comme dans le cadre théorique hérité de Locke, de Montesquieu et d'autres penseurs du XVIIIe siècle, sur une division des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais sur l'exclusion réciproque et la complémentarité nécessaire entre la potestas et la auctoritas détenues à titre public. Aux magistrats du peuple romain, la potestas, avec ou sans imperium. Aux sénateurs et aux prêtres, la auctoritas. En cela, je suivais et j'approfondissais une remarque de Hannah Arendt, page 161-162, de « Qu'est-ce que l'autorité ?», publiée dans « La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique », Paris, 1972, texte original en anglais de 1968. La citation latine que fait Hannah Arendt est empruntée à Cicéron, De Legibus 3.28. Elle fait également référence à Montesquieu, L'Esprit des lois, livre 11, chapitre 6, mais aussi, et ça n'est pas anodin, à Théodore Mommsen, Le droit public, volume 7, pour la traduction française, volume 7, 1891, dont les pages 231-233 sont même citées textuellement par Hannah Arendt. Alors la citation, vous l'avez sur l'exemplier, je vais prendre le temps de la lire. La caractéristique la plus frappante de ceux qui sont en autorité est qu'ils n'ont pas de pouvoir. Hein, c'est l'exclusion réciproque dont je parlais tout à l'heure. Cum potestas in populo, auctoritas in senatus sit. Tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l'autorité appartient au Sénat. Parce que l'autorité, l'augmentation, que le Sénat doit ajouter aux décisions politiques n'est pas le pouvoir, elle nous paraît curieusement insaisissable et intangible, ayant à cet égard une ressemblance frappante avec la branche judiciaire du gouvernement de Montesquieu, dont il disait « la puissance », et là c'est Montesquieu donc qui est cité « en quelque façon nulle », et qui constitue néanmoins la plus haute autorité dans les gouvernements constitutionnels. Mommsen l'appelait, là c'est Mommsen cette fois qui est cité, « plus qu'un conseil et moins qu'un ordre, un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage. » Cela signifie, de nouveau citation, que la volonté et les actions du peuple sont comme celles des enfants, exposées à l'erreur et aux fautes, et demandent donc une augmentation et une confirmation de la part du Conseil des anciens. Le caractère autoritaire de l'augmentation des anciens se trouve dans le fait qu'elle est un simple avis, qui n'a besoin pour se faire entendre ni de prendre la forme d'un ordre, ni de recourir à la contrainte extérieure. Il m'est apparu en effet que tout le système politique de la res publica était structuré par le binôme, sur le binôme, potestas auctoritas, l'auctoritas du Sénat et des prêtres, contrebalançant la potestas des magistrats et du peuple. Les sources nous révèlent certes une réalité plus complexe, puisqu'elles évoquent parfois des magistrats et un peuple romain détenteur d'auctoritas. Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur ces quelques attributions d'auctoritas à première vue dissonantes. L'usage de l'expression « auctoritas populi romani » est soit démagogique, soit diplomatique. Quant à l'auctoritas des magistrats, j'ai pu montrer, je crois, dans ma contribution de 2020 à l'ouvrage déjà cité qu'ont dirigé Jean-Michel David et Frédéric Hurlet, vous avez la référence également à l'article sur l'exemplier, qu'elle différait profondément de celle attachée aux fonctions sacerdotales, aussi bien dans ses fondements que dans ses modalités d'exercice. Les fonctions sacerdotales étant viagères, l'auctoritas qui résultait de leur détention l'était aussi. Il en allait tout autrement de l'auctoritas découlant de magistratures le plus souvent annuelles. Car même si cette auctoritas survivait au terme de la magistrature, ce que prouve notamment l'influence des consulaires et des anciens censeurs au Sénat, elle n'en était pas moins soumise à l'usure du temps, si aucune magistrature ultérieure ne venait la renouveler. On a un bon exemple de ça avec Pompée. À l'exception de certaines compétences rhétoriques et juridiques, largement partagées au sein de la nobilitas, l'auctoritas des magistrats ne reposait pas sur une quelconque expertise, contrairement à celle des prêtres, experts religieux des magistrats et du Sénat. L'auctoritas des magistrats, mobilisée avant tout comme une alternative, secondaire et complémentaire à l'usage de leur potestas, reposait principalement sur la détention de cette puissance publique, activable à tout moment. Tant qu'elle demeurait latente, la potestas d'un magistrat fondait son auctoritas. Dès qu'elle était activée, la potestas, l'exercice de la magistrature changeait de modalité pour adopter celle de la contrainte. Les anciennes magistratures patriciennes, devenues magistratures du peuple romain, bénéficiaient en outre, par leur droit de prendre les auspices à titre public, d'un lien structurel avec l'auctoritas auspiciorum, hérité du monopole auspicial patricien. Cicéron la mentionne explicitement dans l'un de ses récits du vice auspicial de Tiberius Gracchus père, lors de sa présidence des comices consulaires en 163 avant Jésus-Christ. Je propose de lire la traduction de Gérard Freiburger et de John Scheid. Est-ce qu'on trouve dans tes écrits concernant Tiberius Gracchus, pardon, et ce qu'on trouve dans tes écrits concernant Tiberius Gracchus, ne confirme-t-il pas la science des augures et des aruspices? Ce dernier tint des comices pour l'élection des consuls, en ayant par mégarde dressé irrégulièrement la tente augurale, cum tabernaculum vitio capiset in prudens. Du fait qu'il avait franchi le pomerium sans avoir pris les auspices, quod inauspicato pomerium transgressus esset. C'est un passage très compliqué, hein, ce texte. Il y a un article qui va sortir sur Athénaïum qui n'est en partie pas d'accord avec ce que j'ai écrit dans le livre. On va refaire deux articles avec Michel Lune dans Cthéma. Il y a du débat autour de ce texte, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cependant, Tiberius Gracchus, lui-même augure, conforta par l'aveu de son erreur l'autorité des auspices. C'est là où on a l'expression, hein, « spiciorum auctoritatem ». Et les aruspices, convoqués au Sénat juste après ces comices, ajoutèrent beaucoup d'autorité à leur science, à leur disciplina, vous voyez que c'est le mot « auctoritas » aussi qu'on a là, en assurant que le magistrat qui les avait présidés n'était pas légitime, « justum hein, »,« negavirunt justum comitiorum rogatorem fuisse ». L'auctoritas auspiciorum était bien sûr censé être conférée aux magistrats du peuple romain par les dieux, à commencer par Jupiter. J'entre enfin dans le sujet. Dieu, complètement libre de toute servitude, pour reprendre la très belle formule de Gerhard Rathke dans un article que je cite sur l'exemplier, souverain par excellence, maître des signes auguraux, dont signes auguraux, dont les auspices hein, des magistrats faisaient partie. Ce n'étaient pas les seuls signes auguraux qui existaient. Alors, on peut citer encore une fois Cicéron. Alors, je sais bien que des fois, on me reproche de travailler beaucoup sur Cicéron au titre-livre, en même temps, ben, on fait avec ce qu'on a, et Ovide. Mais les augures publics, interprètes de Jupiter très bon, très grand, interprétes autem iovis optumi maximi publici augures, hein, donc les publici augures comme interprétesse hein, de JOM, d'après les signes et les auspices, bon, verront les événements ultérieurs, bon, bref, on pourrait discuter, c'est pas la boule de cristal. Hein. Ovide dans les Fastes, 1611-613, c'est de l'origine de ce mot, Augustus, hein, que vient à augurium, et tout ce que Jupiter accroît à Auguette par son assistance, hein, tout ce qu'il accroît à Auguette par son ops. OP en latin. On a ça aussi dans le passage sur la cérémonie de l'Ustratio au préalable de la reconstruction du Capitole après la destruction pendant les guerres civiles. Donc on est sous Vespasien, j'en reparlerai là, pour la première conf, là, le PHE en mai. J'en parle pas aujourd'hui, mais on retrouve l'expression, pas liée aux auspices, hein, mais liée à l'idée d'augmenter, d'accroître l'entreprise des hommes. Donc une prière qui est faite aux dieux, il est demandé d'accroître l'entreprise des hommes par l'ops des dieux. Hein. Donc on a un vocabulaire qui est à peu près le même, même si je n'ai pas repris là sur l'exemplier ce passage aujourd'hui. La religion romaine étant polythéiste, c'est toutefois non seulement Jupiter, mais une pluralité de dieux qui, à travers la prise d'auspices, se portaient garant à auctores, toujours la même racine, hein, toujours la même métaphore culturelle, pour parler comme Maurizio Bettini, de l'acte de potestas que le magistrat du peuple romain s'apprêtait à accomplir. C'est comme ça que j'ai proposé dans mon livre d'analyser, d'interpréter la prise d'auspice. C'est un moment où le magistrat qui n'a pas fondamentalement de l'auctoritas, pas au même titre que les sénateurs ou les prêtres, demande ponctuellement à Jupiter son auctoritas pour l'acte de potestas qu'il s'apprête à faire au nom du peuple romain. la bataille, la réunion des comices, du Sénat. Il faut que les dieux se portent à auctores, si vous voulez, de son acte de potestas. Alors, on n'a évidemment pas des foules de sources hein, qui parlent de ça, ça peut paraître étonnant, mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, il y a deux passages qui sont particulièrement clairs, me semble-t-il, qui viennent tous deux, malheureusement, de Tite-Live, mais c'est comme ça. Alors, livre 10, le consul joyeux annonce publiquement que les auspices sont excellents. Hein. En latin, on a auspicium egregium, que les dieux approuvent cet engagement, deis auctoribus, et il se porte à auctores de quoi ? De rem gesturos, hein, de la chose que les Romains sont sur l'action, la bataille en l'occurrence, sur le point d'entreprendre. Et il fait arborer le signal du combat. Voilà. Donc, nous reviendrons plus longuement sur ce passage dans la suite de cette intervention. Deuxième passage, Tite-Live, livre 29, chapitre 27, paragraphe 2-3. C'est là une prière que Tite-Live attribue au futur Africain, Scipion. Hein. On est en 204 avant Jésus-Christ. Dieux et déesses. Alors, vous voyez que là, je parlais du côté polythéiste. Hein. Vous avez vu que ce sont des dieux qui sont auctores hein, pour la bataille d'Aquilonia, le passage précédent. Et ici, vous voyez qu'on s'adresse à des divi diwaeque. Au passage, c'est diwi diwae. Je ne sais pas s'il faut trop insister sur la différence, mais enfin, entre deus et divus, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est un autre sujet. Alors, dieux et déesses qui habitaient les mers et les terres, divi diwaeque, cui Maria terrasque colitis, voici ma demande, ma prière, que ce qui a été est ou sera à l'avenir accompli durant mon commandement, et que j'essaye de faire le lien avec les mots de latin que je mets entre parenthèses, entre la demande d'augmentation qui va être formulée et l'action militaire que Scipion s'apprête à mener sous son imperium et sous ses auspices. Ce qui a été est ou sera à l'avenir accompli durant mon commandement, in meo imperio, pour moi-même, pour le peuple et la plèbe de Rome, pour nos alliés et les nations de non-latin, pour ceux qui suivent le parti du peuple romain et le mien, mon commandement et mes auspices, imperium auspiciumque, sur la terre, sur la mer et sur les fleuves, que tout cela est une issue heureuse. Veuillez le favoriser. Et aque vos omnia bene juvetis, le faire se développer en d'heureux développements, hein, le faire s'accroître en d'heureux accroissements. Hein, bonis auctibus auxitis. C'est un passage où il appert clairement, et là je cite Maurizio Bettini, qui est auger, désolé pour les accents toniques, ils vont donc tous être faux. Hein, parle à mes amis italiennes, que augere costituisca una buona metafora culturale per esprimere quell'aura indefinibile, impalpabile e pure così potente che avvolge le azioni che hanno esito felice, ovvero la persona che ottiene gloria e successo. Augeo e Felix stanno alle due estremità dello stesso asse metaforico. Se augere significa far crescere, nel senso di dare successo, Felix indica ben cresciuto di questa azione di accrescimento. Je trouvais ça parlant, éclairant, d'où la reprise de la citation. Donc, ces pages de Bettini sont intéressantes, hein, il s'intéresse à la prière du Scipion hein, dans ces pages. Depuis, je l'ai cité le livre, mais je ne l'ai pas cité dans mon livre, puisque c'est 2015 les deux. Et je ne connaissais pas au moment où j'avais finalisé le manuscrit. Un texte de Tite-Live résume parfaitement à la fois la prééminence de Jupiter en matière d'auspices, même si dans le cas qui va nous occuper, c'est en fait plutôt des augurias que des auspices, hein, c'est ce que j'appelle les auspices inauguraux de Romulus et de Rémus, enfin de Romulus, là, parce que, évidemment, on est avant toute institution. Hein, donc, les, voilà. On peut, voilà, mais c'est. Il s'agit d'inaugurer le Pomerium, à mon avis, plus qu'autre chose. Bon. Donc je reprends ma phrase, un texte de Tite-Live résume parfaitement à la fois la prééminence de Jupiter en matière d'auspice, d'augoria, bon, et la pluralité des dieux à Auctores, hein, de cette fondation. Puisse, donc là on est censé être en 206, mais enfin il est fait allusion à la fondation de l'Ourps, hein, puisse Jupiter, très bon, très grand, ne pas permettre qu'une ville fondée avec des auspices favorables. C'est auspicato qui est traduit comme ça, hein, conformément aux auspices ou de bons auspices. Bon. À l'instigation des dieux, et là on retrouve le pluriel alors qu'a priori on s'adresse à Jupiter, vous voyez, hein, dis auctoribus, pour l'éternité, est la même durée de vie que ce corps fragile et mortel. Vous voyez, les Romains priaient beaucoup. Dans l'Ourpe, c'est sur le champ de Mars, l'auctoritas auspiciorum, détenu par les magistrats du peuple romain, était matérialisé par, je reprends la formule là, Jean-Michel David, même s'il ne l'entend pas avec cet esprit-là, parce que, bon bref, la religion l'intéresse comme Nicolet, les espaces de majesté que constituaient les templa auguraux destinés à agir avec le peuple ou le Sénat. Et c'est vrai que c'est important de garder un peu cette représentation très concrète des choses. Les magistrats s'adressaient au peuple depuis des espaces de majesté, des espaces surplombants, hein, les tribunes du Forum romain, tribunes du Comitium, tribunes des Saepta, et alors a fortiori quand il s'agit de curies, de temples, hein, qui sont généralement sur podium. Alors ces templa, qui sont donc pas forcément des temples, hein, vous l'aurez compris, à Rome, qui sont d'abord des espaces, hein, inaugurés par les augures. Ces templa étaient donc des espaces rituellement définis, inaugurés par les augures. Ils ne manifestaient pas que cette supériorité des magistrats sur le peuple romain, hein, donc le peuple aussi a une potestas, il n'y a pas que les magistrats, mais le peuple romain n'a pas d'auspice au sens juridique du terme. Hein. Donc, il y a quand même besoin du magistrat qui, lui, a les auspices. Hein, quand je parle des magistrats du peuple romain, pas des magistrats de la plèbe. Le fondement de leur pouvoir est religieux, mais tout autre. Hein. C'est lié au serment de la plèbe, c'est pas du tout lié aux auspices. Hein. Donc, ces templa ne manifestaient pas seulement cette supériorité des détenteurs, non seulement de la potestas, mais des auspices qu'étaient les magistrats sur les simples citoyens. Ils manifestaient aussi le contrôle des magistrats par les augures et par le Sénat, me semble-t-il. Il constituait en effet pour les magistrats et les pro-magistrats du peuple romain une obligation institutionnelle avant toute action publique importante, entrée en charge, départ à la guerre ou en province, bataille, réunion des comices, réunion du Sénat, etc. La prise d'auspice était, pour reprendre les termes de Jörg Rübke dans un article dont je vous donne la référence, une forme de légitimation qui imposait en retour le devoir de prendre constamment les auspices. Hein ? Ça, c'est bien la preuve qu'ils n'avaient pas, en fait, une auctoritas, ils n'avaient pas une fonction d'auctoritas, les magistrats. Bien sûr, ils avaient une position supérieure. Bien sûr, ils avaient le bâton qui leur donnait de l'autorité, parce qu'on savait qu'ils pouvaient recourir au bâton, si vous voulez. Mais fondamentalement, ce n'est pas une fonction d'auctoritas qu'ils occupaient, sans quoi ils n'auraient pas besoin de demander constamment, avant tout acte de potestas, l'auctoritas de Jupiter, et de devoir recommencer le lendemain. Cette légitimation était donc, je continue la citation parce que je la trouve parlante, hein, atomisée, réduite en éclats du fait qu'on devait sans cesse la renouveler. Elle était donc précaire. Le jus auspicandi, attaché, si vous me permettez cette expression, hein, attaché aux anciennes magistratures patriciennes, les magistratures du peuple romain, était ainsi autant une source d'auctoritas qu'un rouage fondamental du contrôle des magistrats par leur pair, P P-A-I-R-S. Si l'on quitte l'analyse horizontale des rapports de pouvoir entre aristocrates romains pour se tourner vers l'analyse verticale des relations entre les magistrats romains et les dieux de Rome, elle n'en illustre pas moins combien comme le dit Hannah Arendt, la notion d'auctoritas, hein, je pense, il y a un problème dans mes notes, là, pardon, comme le dit Hannah Arendt, elle n'en illustre pas moins, comme le dit Hannah Arendt, combien la force liante de cette autorité est en rapport étroit, non, pas l'auctoritas, je retombais sur mes pieds, pardonnez-moi, je parlais de la prise d'hospice, d'accord ? La prise d'hospice n'en illustre pas moins combien, comme le dit Hannah Arendt, la force liante de cette autorité est en rapport étroit avec la force religieusement liante des hospices. Et combien les dieux aussi ont de l'autorité chez les hommes, plus qu'un pouvoir sur eux. Ils augmentent et confirment les actions humaines, mais ne les commandent pas. Vous avez la citation à la page 2 de l'exemplier. Donc pour Hannah Arendt, qui, il faut le rappeler, est au cœur de son essai sur l'autorité et vient de parler des hospices et de faire le lien entre hospice et autorité. Donc on est quand même dans ce contexte-là, mais donc à ce moment-là, elle écrit cette remarque. Les dieux ont aussi de l'autorité chez les hommes plus qu'un pouvoir sur eux. Ils augmentent et confirment les actions humaines et ne les commandent pas. Cela se perçoit également assez bien dans le rôle joué par les hospices d'entrée en charge des magistrats, qui ne conféraient aucun pouvoir aux magistrats élus par les comices, puisque ce pouvoir, potestas avec ou sans imperium, lui était transmis lors de sa renunciatio par le magistrat sous les auspices duquel les comices avaient voté. Ça peut paraître un détail un peu technique, mais en fait, c'est pour ça que Rome n'est pas une démocratie. Donc, c'est tout sauf un détail, en fait. Il n'y a aucun pouvoir qui part du peuple vers les magistrats à Rome. Donc, les hospices d'entrée en charge ne conféraient aucun pouvoir. Ce pouvoir était conféré lors de la renunciatio par le magistrat sous les hospices duquel l'élection était en train de se dérouler. Ce que faisaient les hospices d'entrée en charge, c'est une actualisation. Ils actualisaient, ils activaient, ils activaient le pouvoir du magistrat lors de sa prise effective de fonction. Alors, souvent au début de l'année civique, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir, et c'est le cas dans l'exemple qui suit, des consuls suffectes, en cours d'année. Alors, l'institution du consulat suffect, c'est plutôt plus tardif, c'est sous Auguste, quoi, mais dans les faits, il y en avait déjà avant, lorsqu'il y avait un consul qui mourait. C'est le cas ici en 215. Dans le cas de Marcus Claudius Marcellus en 215, élu consul, donc suffect, pourrait-on dire, puisqu'il y avait eu un consul de décédé à une énorme majorité, ces hospices d'entrée en charge sont clairement défavorables, comme quoi ça arrivait. Alors lisons, désolé pour le manque de variété, Tite Live, Marcellus est élu à une énorme majorité, creatur in genti consensu. Donc là, c'est la creatio, donc, par les comices. De façon qu'ils prennent aussitôt possession de sa magistrature, parce qu'on est dans le cadre d'un consulat suffect. Donc il n'y a pas les quelques mois de latence qu'il y a d'habitude entre l'élection et la prise de pouvoir par le consul désigné. Ça va ? Comme le précise Linderski dans son article célèbre de la NRW, dont vous avez les références sur l'exemplier, extemplo doit ici être compris, puisqu'il s'agit d'un consulat suffect, dans le sens de « immediately after his ceremonial renunciatio as consul ». Comme il avait tonné lors de son entrée en charge, « ineunti consulatum cum tonuisset », les augures appelés déclarèrent que son élection, donc il le déclare a posteriori, hein, vous l'avez remarqué tous, paraissait viciée, hein, vitio creatum. Et les patriciens allaient disant que pour la première fois, deux consuls plébéiens avaient été nommés et que cela ne plaisait pas aux dieux. Vous voyez qu'on les a, les dieux, qu'on cherche bien. Ideis cordi, je me moque de moi-même, là. Ideis cordi non, en disant ça. Ideis cordi non esse. Alors, à la place de Marcellus, quand celui-ci eut abdiqué sa magistrature, on nomma Quintus Fabius Maximus consul pour la troisième fois. Alors, l'antériorité des auspices d'entrée en charge sur le vote de la loi Curia, récemment étayée d'une façon très convaincante par Françoise Van Eperen, vous avez la référence de l'article sur l'exemplier, permet de rendre compte d'un passage du délégué agraria où Cicéron, encore lui, considère le vote de l'Alex Curiata comme l'occasion pour le peuple d'exercer sa reprehendendi potestas. Lisons ensemble la traduction. Vos ancêtres ont voulu que pour chaque magistrature, vous exprimiez deux fois votre avis. Jadis, en effet, on portait une loi centuriale pour les censeurs, une loi curiale pour les autres magistratures patriciennes. On exprimait ainsi une seconde fois son suffrage à l'occasion des mêmes candidats, de sorte que le peuple était maître de se rétracter, reprehendendi potestas, s'il se repentait de son choix. Aujourd'hui, Quirite, vous n'avez gardé que la première sorte de comice, par centurie et par tribu. Les comices curiates n'ont subsisté qu'à cause des auspices, auspiciorum causa. Françoise Van Eperen en conclut de manière convaincante que les auspices à cause desquels les comices curiates furent maintenus furent les auspices d'entrée en charge. Ce n'est donc qu'une fois que le choix des comices tributes ou centuriates avait été soumis à Jupiter lors des auspices d'entrée en charge du magistrat élu, que les comices curiates, réunis par ce dernier en présence d'augures, hein, on sait qu'il y avait des augures qui étaient présents à ce moment-là, enregistraient l'approbation ou le refus du dieu. Dans le premier cas, où le dieu approuve, lors d'auspices d'entrée en charge favorable, le choix des comices, donc dans le premier cas, bien sûr le plus fréquent, il faisait du nouveau magistrat, par le vote de sa loi curiate, un magistrat justus. C'est ce que nous disent les sources, hein, justus. Parfaitement légitime, parfaitement conforme au jus. Enfin. Dans le second, ils exerçaient le droit du peuple à se rétracter, reprehendendi potestas, dans le texte de Cicéron. Pourquoi faire ? Pour se conformer, bien sûr, à la vie souverain de la divinité. Car ce vote, bien évidemment, ne pouvait pas désavouer Jupiter. On n'allait pas avoir des comices curiates qui allaient voter pour que le magistrat entre en fonction malgré des auspices défavorables, d'entrée en charge défavorables. C'est pourquoi, à mon avis, pour répondre à certaines des questions que se posent mes collègues, la plèbe ne put jamais l'instrumentaliser dans le cadre des luttes patricio-plébéiennes du 1er siècle et demi de la République. On ne pouvait pas instrumentaliser ce vote-là, puisqu'il s'agissait juste de prendre acte de la position du dieu, en fait, enfin des dieux, en l'occurrence surtout Jupiter. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle il finit par être confié, à mon avis, c'est aussi la raison pour laquelle il finit par être confié à de simples licteurs. C'est à cette évolution-là que fait allusion Cicéron dans son passage, en disant qu'on les a plus gardés, en gros ils n'existent plus, quoi, qu'on les a plus gardés que pour les auspices, sont fossilisés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, hein, c'est pas ça qu'il faut comprendre, parce qu'on sait bien qu'ils n'ont pas disparu. On a tout un ensemble d'épisodes à la fin de la République où les comices curiates sont concernés, donc ils n'ont pas disparu, mais ça veut dire que ce n'est plus le peuple physique réel qui se réunit, ce sont des licteurs, 30 licteurs qui représentent les 30 curies. Dans tous les cas envisagés jusqu'ici, il n'a toutefois été question que des signes divins sollicités. Aussi paraît-il légitime de se demander si la conception autoritaire, hein, au sens, en référence à au sens où Hannah Arendt l'emploie, hein, donc avec ce sens d'autorité non coercitive, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, derrière autoritaire, même si on a tendance à plus l'entendre comme ça aujourd'hui, d'accord ? Plutôt donc coercitive, aussi paraît-il légitime de se demander si la conception autoritaire, plutôt que coercitive, de la relation Dieu-homme résisterait à l'examen des signes divins non sollicités. J'ai choisi de citer sur ce point, parmi d'innombrables autres sources relatives aux prodiges, on pourrait y passer la semaine, un épisode tiré du livre 2 de l'histoire romaine de Tite-Live, comme ça je suis sûr que ce n'est pas historique, qui nous intéresse donc évidemment davantage pour sa structure que pour son historicité, bien sûr, où le visage effrayant, contraignant, coercitif des dieux, et en particulier de Jupiter, apparaît clairement. Épisode qui a par ailleurs l'intérêt d'articuler la divination onirique au dossier des prodiges, ces signes pour la plupart inquiétants et non sollicités qu'il convenait de rapporter aux autorités romaines pour qu'elles fussent en mesure de les procurer si elles jugeaient qu'elles relevaient bien de la sphère publique. Alors lisons ce morceau d'histoire ensemble. Tite-Live, livre 2, 36, 2-6. Peu après, un plébéien, Titus Latinius, fit un rêve, somnium fuit. Jupiter lui apparut en songe, visus Jupiter, et lui dit qu'il n'avait pas aimé la danse qu'on avait donnée au prélude au jeu. La ville serait en danger si l'on ne recommençait pas les jeux avec faste. Alors, ludis praesultatorem displicuisse, nisi magnifique instaurarentur, et ludi periculum urbi fore. Qu'il aille prévenir les consuls, avec un beau subjonctif d'ordre, hein, iret et a consulibus nuntiaret. Il était fort dévot, et pourtant, le respect de la majesté consulaire l'emporta sur ses craintes. Le consul a plus peur que Jupiter, oui, pour ne pas se ridiculiser en public. Cette hésitation lui coûta cher. Il perdit en effet son fils quelques jours plus tard. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur la cause de ce deuil brutal, il fit le même rêve, tandis qu'il était terrassé par le chagrin. La même apparition lui demanda s'il n'avait pas payé assez cher son mépris de la puissance divine. Satin magnam spreti numinis aberet mercedem. Une punition plus grande le menaçait. Punition... J'ai essayé de faire mieux, j'ai pas réussi. Châtiment, c'était pas mieux, mais punition, ça sombre. Bref, en latin, maiorem instare. Hein ? S'il ne se dépêchait pas de prévenir les consuls, ni eat propere ac nuntiet consulibus. Il fallait agir vite. Pourtant, il hésitait, tardait encore. Il est tiestou, hein, comme on dirait dans mon pays d'adoption. Quand il fut frappé d'un mal foudroyant qui le laissa paralysé. Ingens vis morbi adorta et debilitate subita. Alors la colère des dieux le rappela enfin à l'ordre. Tum enim vero deorum eum ira admonuit. Brisé par les épreuves qu'il avait subies et qui le menaçaient, il réunit toute sa famille. Il raconta les visions, les paroles, les apparitions répétées de Jupiter pendant son sommeil. Visa atque audita. Hein, donc il voit, il entend, et observatum totiens. Répété. Hein, les avertissements sont répétés. Somno iovem. Les menaces et la colère des dieux, minas, irasque caelestes. Les malheurs qu'il avait frappés peu de temps après. On le transporta sur une civière au forum, auprès des consuls. On dirait du plot. Un épisode semblable se retrouve un peu plus loin dans la décade livienne. Vous voyez, je suis toujours aussi original. Où l'on retrouve l'ordre adressé par la divinité. Ordre exprimé cette fois par le verbe iubere, lui-même. Par le verbe iubere lui-même. Que l'on retrouve ailleurs, y compris sur des inscriptions, pour désigner l'ordre donné à un homme par un dieu. Donc c'est l'extrait début de la page 3 de l'exemplier. La même année, Marcus Caecidius, un plébéien, à croire que les patriciens sont vraiment sourds aux dieux, hein, ils n'écoutent pas. Hein. Bon, je fais des blagues, hein, c'est des blagues. Bon, je constate que c'est encore un plébéien. Annonça aux tribuns que dans la rue Neuve, à l'endroit où il y a aujourd'hui une chapelle, au-dessus du temple de Vesta, il avait entendu dans le silence de la nuit, ouais, voir comment on traduit, hein, silentium, compliqué comme terme, ça peut presque avoir un sens auspicial, il y a un très bel article de Michel Hume là-dessus, je n'entre pas dans ces détails aujourd'hui, mais dans le silence de la nuit, une voix plus qu'humaine, lui ordonnait d'annoncer au magistrat l'approche des Gaulois. « Vocem noctis silentio, a odisse clariorem humana, quae magistratibus dici iuberet gallos adventare. » Naturellement, on ne tint aucun compte de cet avis émanant d'un homme de basse extraction. Vous voyez comme ils sont démocrates, mes Romains. Et puis, il s'agissait d'une nation lointaine et par suite assez peu connue. C'est toujours aussi loin. Non, c'est une mauvaise blague pour mon pauvre Carminet. Rejoindre la Gaule depuis Rome, c'est compliqué. Et ce ne sont pas seulement les avis du ciel, c'est une boutade amicale. Et ce ne sont pas seulement les avis du ciel que l'emprise de la fatalité fit mépriser de nouveau Spreta. Neque deorum modo monita ingruente fato Spreta. La réponse des Romains à ces injonctions terrifiantes de la divinité fut toutefois toujours rituel. Fût-ce parfois a posteriori, comme pour la deuxième affaire. Dans le premier cas, les autorités romaines décidèrent l'instauratio des jeux qui furent célébrés une deuxième fois avec faste. Je vous renvoie à Tite Live 2, 37.1. Dans le second cas, un temple fut élevé rue Neuve en mémoire de cette voix qu'on avait entendue avant la guerre gauloise annoncé pendant la nuit les désastres de Rome et qu'on n'avait pas écouté. Neglecta, dans le texte latin. Je vous renvoie à Tite Live 5, 55. Le rite, comme réponse pieuse, religieuse, à l'émotion, à la crainte, à la terreur suscitée par la colère et les menaces des dieux de Rome lorsqu'ils se sentent méprisés, négligé, spreti, on l'a vu plusieurs fois déjà apparaître, neglecta une fois. C'est aussi, me semble-t-il, ce que nous dit l'épisode du dialogue mythique sur l'Aventin entre la réponse rituelle à l'émotion, hein, c'est ça que je veux dire, c'est là-dessus que je fais la comparaison. C'est aussi, me semble-t-il, ce que nous dit l'épisode du dialogue mythique sur l'Aventin entre Numa et Jupiter, sur lequel je me permets de revenir aujourd'hui, puisque l'interprétation traditionnelle qui en a été faite par John Scheid dans un célèbre article de 1985 a récemment été contestée. John Scheid avait montré qu'en dépit de sa forme hellénistique, ce récit étiologique décrit admirablement dans sa version ovidienne le fondement civique et théologique des différentes pratiques divinatoires publiques romaines. Je propose de lire, puisqu'on a le temps, si Vinciane m'y autorise, le texte que j'avais originellement pensé ne pas lire. Je n'ai pas repris absolument tout. Francesca connaît très très bien ce passage, elle l'a aussi très bien étudié, vous avez les références dans la biblio. Mais je pense avoir mis le cœur du texte pour mon propos. Mais la version large, si vous êtes curieux, c'est de 277 à 374. Ici, On va lire simplement les vers 329-348. Picus et Phonus te font sortir, Eliciunt, du ciel, Jupiter. Aussi la postérité t'honore encore aujourd'hui sous le nom d'Elicius. La tradition admet que le sommet de l'Aventin a tremblé, le sol s'est affaissé sous la pression pesante de Jupiter. Le cœur du roi tressaille, son sang se fige dans tout son corps et ses cheveux se hérissent sur sa tête. Quand il eut repris ses esprits, il dit « Roi et père des dieux du ciel, accorde-moi un moyen sûr de conjurer la foudre. Si j'ai toujours touché ton autel d'une main pure, et si ma requête t'est présentée par une langue pieuse, Jupiter accéda à sa prière, mais il dissimula la vérité sous des tours énigmatiques. Sed verum ambage remota abdidit, et il terrifia Numa par l'ambiguïté de sa réponse. Dubio. Qu'open tête, dit-il. Le roi répondit, j'obéirai. Il faudra couper la tête d'un oignon tiré de mon jardin. Le dieu précise, la tête d'un homme. Le roi répond, tu prendras ses cheveux. Mais le dieu exige une vie. Numa réplique, la vie d'un poisson. Le dieu se mit à rire et dit, par ses offrandes, tâche de conjurer les traits de ma foudre. Ô mortel qui n'est pas indigne de converser avec les dieux. Pour toi, je te donnerai quand demain le dieu du sein t'aura dégagé son disque entier, des gages sûrs de souveraineté. Pig imperi pignora. Il y aura des choses même à dire sur cette expression. En lien avec l'auctoritas, justement. C'est des gages d'imperium qui donnent, c'est bien l'auctoritas. Bon, bref. Alors. John Scheid, je n'ai jamais su comment vous dites. Scheid. Il préfère Scheid, hein, c'est ce que j'ai toujours dit, mais j'ai entendu des. Il exige. Ah bon? Parce que du coup, moi, je n'ai jamais trop su. Et j'ai réécouté récemment, parce que je vais devoir le prononcer très souvent, des interviews où ils disent Scheid. Alors voilà, ok, c'est Scheid, donc je ne me trompais pas. Et je dis comment? Et Perren, c'est ça? Hein, Van Aperen. Très bien, merci. Pourtant tous de... Enfin bon, bref. C'est vrai que j'ai jamais osé leur demander directement comment on prononçait leur nom. Alors, John Scheid avait montré qu'en dépit de sa... Je vais relire quand même la phrase et reprendre, c'est pas grave. John Scheid avait montré qu'en dépit de sa forme helénistique, donc ce récit étiologique, décrit admirablement dans sa version ovidienne le fondement que nous venons de lire, le fondement civique et théologique des différentes pratiques divinatoires publiques romaines. Le roi Numa s'y conduit en magistrat suprême de Rome, titulaire de l'impérium et du droit d'hospice corrélatif. Dominant les émotions suscitées en lui, émotions bien réelles, il ne s'agit pas de nier qu'il ait eu super peur, dominant les émotions suscitées en lui par les inquiétants prodiges qu'envoie Jupiter, Numa évite de céder à la superstitio, crainte excessive des dieux, et s'en tient à la religio, c'est-à-dire aux obligations rituelles envers les dieux. Mais non, je ne fais pas mon credo, Nicole. Il prend d'abord conseil auprès de la nymphe Égérie, figure mythologique qui évoque à la fois le concilium privé du magistrat et le concilium que lui procurent prêtres et sénateurs. Puis il consulte deux divinités oraculaires, Picus et Phonus, en écho sans doute à la consultation des livres oraculaires de la Sibylle en cas de prodige. Enfin, il s'adresse à Jupiter lui-même au travers d'un dialogue qui s'apparente à la fois à un sacrifice archaïque et à une prise d'hospice de magistrat. C'est le roi qui sollicite le dieu, à la fois souverain par excellence et maître des signes, y compris des hospices et autres signes auguraux. Et Jupiter, satisfait de la fermeté du roi, se reconnaît alors en quelque sorte citoyen de Rome et se soumet, comme les autres citoyens, à la force contraignante du rite et à l'imperium du magistrat romain. Lindsay Drittiger Murphy a récemment contesté, dans un article dont vous avez donc la référence, même si je pense que Ricid, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment smile, mais bon, on pourra, ou alors je ne maîtrise pas bien le spectre du mot smile en anglais, mais j'ai l'impression que Jupiter rit, je vais essayer de rester poli, mais rit carrément. Je veux dire, je crois qu'il ne sait pas seulement smile. Donc déjà, avec le titre de l'article, ça commence mal, mais bon. Donc, a récemment contesté à la fois la pertinence de la démarche consistant à voir dans le poème ovidien « A paradigm for Roman religiosity », j'ai fait exprès de citer, et la justesse de l'interprétation du récit ovidien par John Scheid. Le poème d'Ovid, loin de représenter la règle, serait en réalité exceptionnel en tout point. Il n'est en effet habituel ni qu'un dieu romain demande un sacrifice humain, ni qu'il s'adresse clairement et directement aux hommes, ni qu'il soit attiré sur terre par des procédés magiques, ni qu'il soit apaisé par le sacrifice d'un oignon de cheveux et d'une mandole. Il n'est pas jusqu'à Numa qu'il soit une figure de piété trop exceptionnelle pour être représentative. Désolé pour cette toux, hein, j'ai une toux d'irritation qui m'accompagne au quotidien, j'en suis désolé. Quant au récit d'Ovide, il témoignerait d'un Jupiter davantage professeur et roi que concitoyen ou collègue. Il me semble que Lindsay, je vais arrêter d'écorcher son nom, je vais l'appeler Lindsay, sous-estime la dimension étiologique du dialogue entre Jupiter et Numa, qui, parallèlement à l'importance du thème du sacrifice humain dans ce récit qui remonte sûrement à Valerius Antias, hein, qui a bien insisté Francesca, explique à mon avis à la fois son caractère exceptionnel et le statut de professeur ici revêtu par Jupiter. Je pense que c'est juste parce que c'est un récit étiologique, en fait. Comme le souligne John, Numa doit fonder des institutions religieuses civiques qui n'existent pas encore. Et c'est dans ce cadre qu'il convient d'interpréter la mise à l'épreuve de Numa par Jupiter, qui souhaite s'assurer que le roi va les fonder sur la religio et non pas sur la superstition. Le fait que l'apologiste chrétien Arnob lui-même, Adversus Nationes 5.3, se montre familier dans le cadre d'une concession rhétorique à son interlocuteur païen, d'une version du mythe où Jupiter, loin de s'être fait piéger involontairement par Numa, se serait au contraire consciemment laissé piéger par lui afin de le tester, me paraît confirmer la portée paradigmatique de la version ovidienne plutôt que l'infirmer. Je propose de lire cette version. Là aussi, hein, la version longue, c'est 5.1.4. Je propose de lire 5.2.1 et 5.3.1.3. La traduction est sous la plume de quelqu'un qui s'y connaît en religion romaine. Tu rigoles si tu veux, mais moi je rigole pas. Je trouve que tu as écrit des choses très bien. Tout ce récit a été si bien imaginé et agencé pour être ridicule. Enim sunt omnia et excogitata et comme parata derisui, qu'il vous faut plutôt vous efforcer de faire croire qu'il est faux, même s'il est vrai, que de vouloir le faire admettre comme vrai et le faire passer pour quelque chose d'extraordinaire, non sans jeter le discrédit sur la divinité elle-même. Non sine ipsius nominis in sinuare contemptu. Mais admettons que, comme on le dit, sed concedemus ut dicitur, c'est là où il y a la concession l'interlocuteur païen imaginaire. Mais admettons, comme on le dit, que, comme on le dit, Jupiter, agissant contre lui-même, ait eu connaissance de remèdes et de techniques permettant d'aller à l'encontre des signes qu'il donnait. Croirons-nous aussi qu'un dieu d'une si grande puissance, Deum numinis tanti, s'est laissé traîner sur la terre, tractum esse ad terras, et que, se tenant sur une quelconque colline, sur un minuscule mamelon, il a engagé une joute oratoire avec ce chétif humain, et in verrucula colis unius, cum homunculos tantem altercabilem conservisse sermonem. Et quel fut donc, je vous prie, ce fameux rituel qui a forcé Jupiter à abandonner la tâche immense de faire tourner le monde pour comparaître à la notification des mortels? Et quaena milla quaeso divinares fuit, quae ab impetur erum tanto Ioem com pulit ab vocari et mortalium cesse denuntiationibus sistere, avec de la farine salée, de l'encens, du sang, une fumigation de rameaux sacrés, accompagnée de noms terrifiants que l'on marmonne, et tout cela fut plus puissant que Jupiter pour le forcer à obéir contre son gré à des injonctions ou à s'exposer volontairement à des traquenards. Non, pardon, c'est là qu'il y a la concession à laquelle je faisais allusion. Et potentiora quam Jupiter fuerunt aecom nia, ut eum com pellerent inuitum parere praeceptis aut voluntarium cesse circumventionibus tradere. Et la suite. Trouvera-t-elle créance ? Le fils de Saturne, manquant de prévoyance, au point d'avancer des ambiguïtés pour se faire attraper lui-même, on retrouve ici la concession que j'évoquais, ou bien d'ignorer l'avenir et la façon dont l'astuce et la rorie d'un mortel allaient se jouer de lui. Donc, je reprends, et je fais exprès de répéter ma dernière phrase, le fait que l'apologiste chrétien Arnob se montre familier lui-même, hein, même lui, dans le cadre d'une concession rhétorique à son interlocuteur païen, d'une version du mythe où Jupiter se serait consciemment laissé piéger par Numa afin de le tester, me paraît confirmer, plutôt qu'infirmer, la portée paradigmatique de la version ovidienne. Quant à l'hostilité d'Arnob au caractère contractuel et légaliste de l'échange entre Numa et Jupiter, elle me semble là aussi confirmer, plutôt qu'infirmer, la possibilité pour l'historien de la religion romaine de s'appuyer sur la version ovidienne du mythe, qui n'est influencée ni par une conception médio-platonicienne de la divinité comme chez Plutarque, qui juge incompatible avec la nature bienveillante, philanthropos, des dieux, la cruauté d'un Jupiter réclamant un sacrifice humain, ni par sa conception chrétienne comme chez Arnob, qui considère indigne de la transcendance divine un Jupiter s'abaissant à une joute verbale avec un simple mortel. Alors, on ne va pas relire le passage d'Arnob qu'on a lu plus globalement. On a bien vu cette idée, une conception un peu transcendantale de Jupiter, et donc il n'est pas acceptable, c'est mépriser, on a le terme de contemptu, c'est mépriser le dieu que d'imaginer qu'on puisse forcer un dieu en fait transcendant, dans l'esprit d'Arnob, pas pour les Romains, à descendre sur terre pour discuter et perdre son temps avec des mortels alors qu'il a mieux à faire tourner le monde. Bon, on ne va pas relire ça. Peut-être juste plus tard, alors, même si je n'ai pas repris la suite du passage de la vie de Numa, où on a quelque chose qui est très différent, on a des ennemis qui arrivent, tout le monde a peur sauf Numa qui répond par le rite en disant « moi je sacrifie ». Voilà. Je n'ai pas repris ça. Même si ça a été cité plusieurs fois par John, j'ai pris juste le passage lié à notre mythe, où on a peut-être, par rapport à la question du sacrifice humain, un a priori un peu philosophique. Là, chez Plutarque, ce n'est pas du tout impossible, apparemment. Je suis volontiers l'INSEE là-dessus, qui s'y connaît sans doute bien plus que moi en ces matières. Mais quelques auteurs disent que ce dieu, en colère, enjoignit à Numa de faire la purification avec des têtes. Donion, interrompit Numa, nom d'homme des Jupiter, bon avec des cheveux d'homme, demanda Numa, pour détourner l'horreur d'un tel ordre. Cette remarque, elle est intéressante, elle est peut-être propre à Plutarque. Ectreponta tu prostagmatos deinon. Ces fables, Plutarque les qualifie, vous voyez, de ridicules, ta mutode geloia. Donc il y a un jugement de valeur assez négatif de Plutarque, qui n'est pas chrétien, mais qui est peut-être influencé, je ne sais pas, on pourra en discuter, peut-être que je me trompe, là, je ne sais pas, par des courants philosophiques. En revanche, par rapport au sacrifice humain, voire sanglant, en tout cas humain. Donc, Mutodeg et Loya montrent bien les dispositions envers le divin. Ten ton anthropon epideknutai diatessin pros toteion. J'ai traduit envers le divin, pas envers le dieu, comme c'était dans la CUF, que l'habitude avait imprimé dans l'esprit des hommes de ce temps-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une distanciation de Plutarque par rapport aux Romains dans la manière dont ils rapportent le même mythe. Mais cette distanciation, bien évidemment, n'est pas liée au christianisme. Peut-être, plutôt, vous me direz ce que vous en pensez, vous qui êtes plus savant que moi, peut-être une influence plutôt philosophique dans le cas de Plutarque. Donc il me semble que la source la plus exploitable en termes de religion, en matière de religion romaine, c'est bien la version d'Ovide. Mon papier qui terminait sur la citation non pas de Plutarque mais d'Arnob se poursuit ainsi, car seul un monothéiste peut interpréter en termes de mépris de la divinité, nominis contemptus pour reprendre les termes d'Arnob, un tel ritualisme contractuel, formel, légaliste dans la relation entre les hommes et les dieux. Et c'est à mon avis le même point de vue chrétien qu'adopte en fait ma collègue, dont le christianisme, je suis moi-même chrétien, donc je n'ai pas de problème avec les chrétiens, je le dis clairement, mais voilà, son christianisme, je peux en parler, parce qu'elle l'affiche en fait clairement dans son écrit, dans le dédicace de son livre sur les hospices, c'est explicite. Donc à mon avis, on a un point de vue qui en fait est arnobien, je ne sais pas comment dire, chez Lindsay, y compris dans son approche, dans sa critique de l'utilisation que l'on peut faire d'Ovide, je pense. Et c'est sans doute ce même type d'approche qui amène Lindsay à contester l'interprétation que John donne d'un épisode déjà mentionné tout à l'heure, celui de la bataille d'Aquilonia en 293 avant Jésus-Christ, rapporté par Valère Maxime et par Tite-Live. Alors, je propose là de lire la version longue, cette fois, de l'épisode tiré du livre 10. Quand il eut pris toute disposition pour livrer bataille, Lucius Papirius, donc c'est le consul, envoya prévenir son collègue qu'il avait l'intention d'engager le combat dès le lendemain, si les auspices étaient favorables, si per auspicia liceret. Dès qu'il reçut la réponse de son collègue, à la troisième veille de la nuit, Papirius se leva en silence, la traduction ici, je l'ai reprise, mais évidemment ça ne va pas. Dans le silence de la nuit, on retrouve ici l'allusion à cette catégorie, presque à une heure de la nuit, qui est presque une catégorie augurale, comme l'a montré Michel Hume. J'aurais donc dû corriger là la traduction d'Annette Flaubert qui ne va donc pas. Et envoya le gardien des poulets prendre les auspices, et pularium in auspicium mittit. Au camp, tous sans exception, brûlaient de se battre. Cupiditate pugnae. Vous voyez qu'ils ont des émotions, ces Romains. John ne dit pas le contraire. Cette ardeur générale gagna à son tour ceux qui s'occupaient des auspices. Is ardor omnium etiam ad eos qui auspicio intereant pervenit. Je ne sais pas pourquoi il y a un point virgule qui s'est mis là. C'est une coquille. Comme les poulets refusaient de manger, nam cum puli non pasceretur. Faudrait vérifier là, mais je suppose qu'il manque un N. Faudrait vérifier, parce que c'est pascor, je pense que c'est un déponent. À mon avis, c'est pasquerentur. Le puller n'hésita pas à donner de faux auspices, pularius auspicium mentiri ausus. Et annonça au consul que les poulets picoraient avec appétit. Tripudium solistimum consuli nuntiavit. Et là, on retrouve ce qu'on avait déjà lu tout à l'heure. Le consul joyeux Laetus annonce publiquement que les hospices sont excellents, auspicium egregium esse pronuntiat. Que les dieux approuvent cet engagement, deis auctoribus rem gesturos pronuntiat. Pronuntiat n'est qu'une fois dans le texte latin, bien sûr. Et fait arborer le signal du combat. Pendant que le général prenait ses dispositions, une discussion éclata entre les pulaires au sujet des auspices du jour. Altercatio interpularios horta de auspicio eius diei. Les cavaliers l'entendirent, et jugeant que c'était important, qui rem aud spernandam, on retrouve spernere, hein, rati, firent savoir à Spurius Papirius, neveu du consul, qu'il y avait contestation sur les auspices ambigui de auspicio, renuntia verunt. Le jeune homme, ah, l'âge d'or, né à une époque où l'on n'enseignait pas encore le mépris des dieux, deos spernentem, vérifia le fait pour ne pas commettre d'erreur et vint trouver le consul. Celui-ci lui répondit « Je te félicite pour ton honnêteté et tes scrupules. » Ouais, je ne sais pas comment il a réussi à traduire « virtus » par « honnêteté », mais enfin bon. Bref, on ne peut pas tout, il faudrait tout reprendre, hein, tout retraduire à chaque fois. Bon, bref, je ne l'ai pas fait. Mais c'est le preneur d'hospice qui attire sur sa personne la malédiction divine s'il a menti. « Ceterum qui auspici ad est » Si quid falsi nuntiat, in semet ipsum, religionem recipit. Les poulets, m'a-t-on dit, ont picoré avec appétit. Mi quidem tripudium nuntiatum. Ce sont d'excellents auspices pour le peuple romain et pour l'armée. Populo romano exercituique egregium auspicium est. Il ordonna ensuite aux centurions de placer les pulaires au premier rang. Uti pularios inter prima signa constiterunt. Avant même le cri de guerre et le début de l'engagement, priusquam clamor toleretur conquereretourque, le pulaire qui se trouvait devant les enseignes tomba, si c'est pas beau, hein, mortellement blessé par un javelot perdu. Et miso temer pilo ictus pularius antesigna quecedit. Le consul s'écria en l'apprenant. Les dieux assistent à la bataille. Le coupable a été puni. Di in proelio sunt, abet poenam noxium caput. Tandis qu'il parlait, un corbeau croassa bruyamment devant lui. Ante consulem, aec dicentem, corbus voce. Clara, je ne sais pas si c'est bruyant, c'est Clara en tout cas, okinuit. Le consul, heureux de ce présage, quo laetus augurio, au passage c'est augurio, hein, ce n'est pas auspicio, hein, consul, affirma que jamais les dieux n'étaient intervenus de façon plus éclatante dans les affaires humaines. Ad firmans numquam humanis rebus magis praesentes interfuisse deos. Il fit donner le signal par les trompettes et poussa le cri de guerre. Alors, d'après John Scheid, le consul se conforme ici à la pratique rituelle. Comme le mensonge du pulaire a été conféré aux auspices impétratifs réguliers. Je recommence. Comme le mensonge du pulaire a conféré aux auspices impétratifs réguliers le caractère d'un signe imprévu, Papirius décida, comme il en avait le droit, que le signe qu'on lui avait annoncé était très positif et qu'il le recevait comme tel. Papirius réagit donc comme Numa le fait à l'approche des ennemis, dans ce passage de Plutarque que je n'ai pas cité, mais qui suit juste la citation que je vous ai donnée de la vie de Numa. Il ne se trouble pas à l'approche des ennemis, il demeure persuadé que les rites correctement célébrés lui donneront le salut ou la victoire. Et le récit lui donne raison. Papirius livre aux dieux celui qui, par son mensonge, les a offensés. les dieux se font justice avant même la bataille et envoient en outre un deuxième signe favorable, écrit John dans cet article que je vous cite dans les hommages à Philippe Borgeot. Les dieux se font justice avant même la bataille et envoient en outre un deuxième signe favorable, donc juste après, en Tite Livre 10, 40, 14, avec le corbeau, là. Enfin, le consul est à nouveau saisi par la joie en constatant que les dieux le soutiennent. Alors, je suis personnellement convaincu par la teneur de l'interprétation de John Scheid. Effectivement, le consul ne cède pas à la peur, mais s'en tient au respect formel du rite, se contentant de livrer le pullaire fautif à la vengeance des dieux, puisqu'il est le seul à s'être rendu coupable de mépris pour les rites et pour les dieux. Je souligne encore une fois l'importance de cette notion de mépris des dieux, de mépris des signes divins. Les cavaliers, entendant la dispute entre les pullaires au sujet des auspices du jour, considère que la contestation relative aux auspices ne doit pas être méprisée. Rem aud spernandam rati. Le neveu du consul, à qui les cavaliers s'en réfèrent, les prend au sérieux. Après, notons-le, s'être assuré de la vérité des faits. Car il était d'une génération qui ne connaissait pas, nous dit Tite-Live, le mépris des dieux, deos spernentem. Je n'aurai qu'une réserve ponctuelle à formuler. Selon John Scheid, tout comme selon Jerzy Lindersky d'ailleurs, qu'il semble en fait suivre sur ce point, l'auspice falsifié par le pullaire aurait pris le caractère d'un signe imprévu. Lindersky dit « omen ». Peut-être y a-t-il là un élément qui m'échappe, j'attends vos réactions, mais je dois avouer que je ne vois pas pourquoi une telle interprétation serait nécessaire. L'auspicium, pour moi, il n'y a pas d'auspicium oblatif, en fait. Hein, on en reparlera si vous voulez. Il n'y a que des impératifs, en fait. Enfin bon. L'auspicium falsifié demeure, selon moi, un auspice sollicité, si l'on veut. Mais en raison de la performativité de la parole rituelle, ce que le pullaire a dit est considéré par le consul comme l'auspicium véritable. Point besoin, me semble-t-il, d'en faire un omen. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous soumets ce désaccord ponctuel. Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec John. Or, cette interprétation a été récemment contestée par Lindsay Dridiger Murphy dans son livre publié à Oxford là, sur les auspices, pour qui il serait erroné de voir dans les dieux de Rome des concitoyens bienveillants et prévisibles. Le fait, souligne-t-elle, qu'il soit nécessaire de confirmer par des signes supplémentaires, hein, donc la mort du pullaire et le cri du corbeau, d'accord ? Le fait qu'il soit nécessaire de confirmer par ces signes supplémentaires la justesse du choix du consul de maintenir la bataille, en dépit du fait qu'il avait été informé de la falsification des auspices par le pullaire, suggérerait, nous dit Lindsay, le besoin d'être rassuré, hein, pour le consul, d'être rassuré par rapport au fait que Jupiter allait effectivement le pardonner. Hein, en anglais, elle utilise le mot « to pardon ». Alors, je ne savais pas, moi je ne connaissais que « forgive », « pardon », ça doit avoir le sens religieux de « pardonner », je pense, hein, je ne vois pas ce que ça peut signifier d'autre. Pardon ? Gracier. Gracier, oui, ok, bon. Le mot c'est « pardon » en anglais. Le consul, donc, voilà, le consul, selon elle, devrait être pardonné, gracié, pardonné, d'avoir livré bataille en dépit des auspices défavorables. Cela serait confirmé par le fait que ce fut seulement au moment décisif de la bataille, souligne Lindsay, in ipso discrimine, que le vœu par le consul d'un temple à Jupiter Victor contenta suffisamment les dieux pour qu'ils convertissent les auspices défavorables en auspices favorables. Alors, il y a un bout de petit livre qui va dans ce sens-là. Regardez, je n'ai pas mis là la traduction, mais voilà, vous comprendrez sans difficulté. Id votum, hein, donc ce vœu au moment de... discriminant, pour paraphraser le latin, de la bataille... C'est là qu'il y a le vœu qui est formulé à Jupiter Victor par le même consul, donc. Et Tite-Live écrit cette phrase à ce moment-là. « Id votum discordi fuit hein, » donc ceci hein, trouva grâce aux yeux des dieux, plus aux dieux, « et auspicia in bonum virtut » et donc ils tournèrent l'hospice en hospice favorable, qui était donc défavorable, en hospice favorable. Alors, l'INSEM, me semble-t-il, a raison de souligner que les dieux restent libres jusqu'au cœur de la bataille de décider si, oui ou non, le consul a bien fait de s'en tenir formellement à l'annonce du Pullaire, s'en prendre à son compte, bien qu'il en ait été informé, le caractère défavorable dans les faits des auspices. Lindersky avait d'ailleurs déjà souligné la dangerosité de la prise de risque par le consul. Il écrit « It was a dangerous game to play ». Mais contrairement à Lindsay Dridiger Murphy, je ne vois pas la contradiction de ce propos de Lindersky avec le reste de son propos, où il affirme que les dieux de Rome étaient des legalistic beings that could appreciate fictions and dodges. Voir là une contradiction, c'est penser, me semble-t-il, dans les mêmes termes qu'Arnob. Au terme de cette enquête, j'ai l'impression qu'Hannah Arendt avait vu juste. Les dieux aussi ont de l'autorité chez les hommes plus qu'un pouvoir sur eux. Je ne sais pas si je formulerais ça exactement comme cela, mais je préférais le reformuler en disant que, bien évidemment, qu'ils ont un pouvoir sur les hommes, hein, mais que leur mode de relation le plus fréquent est quand même celui de l'autorité. Non donc qu'ils n'aient pas ou ne soient pas des puissances redoutables et qu'ils n'aient pas un pouvoir sur les hommes, bien sûr. Mais pour essayer de replacer un peu, remettre à sa juste place les publications qui sortent en ce moment, qui sont très anti-scheidiennes souvent, je trouve que John Scheid insistait non seulement sur le caractère citoyens, concitoyens des dieux, mais aussi sur leur double vie. Je ne sais pas si l'expression est très heureuse, parce qu'on pense tout de suite à la double vie de Jupiter, qui en avait donc un nombre infini, n'est-ce pas ? Mais trêve de plaisanterie, il y a un chapitre comme ça qui s'appelle « Double vie des dieux », où il montre bien qu'évidemment, des dieux comme Jupiter ou les autres ne pouvaient pas se limiter à l'adresse qu'ils avaient à Rome. Ils en avaient aussi une à l'Olympe, ils dépassaient la cité, bien sûr. Donc, les dieux romains n'étaient pas uniquement des concitoyens bienveillants, et John n'a jamais écrit ça, c'était aussi des dieux patrons, terrifiants, comme le dit très clairement les signes menaçants, défavorables, que les dieux envoyaient régulièrement, les prodiges, les dirae, les catastrophes ou les désastres, les clades, d'ailleurs elles-mêmes interprétées parfois comme des prodiges. Tout cela le prouve. Mais ils n'en faisaient usage, me semble-t-il, que lorsque leur puissance divine, leur noumen, leur rite, leur signe avaient été méprisés, spréti. Notion que l'on a fréquemment rencontrée dans les textes parcourus aujourd'hui et que l'on retrouve encore dans l'épisode bien connu, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, de l'impie Flaminius, qu'on cite toujours, châtié, si on veut employer cette image, Atrasimène, qui quitta Rome sans avoir pris ses auspices d'investiture, hein, ni d'entrée en charge, ni de départ, parce qu'il avait conscience, enfin qu'il savait bien, fait dire Tite-Live au sénateur, d'avoir méprisé les dieux. Tite-Live 21-63-7, conscientia spretorum. De même, Tite-Live nous rapporte que la mort en 362 du premier consul plébéien, dirigeant une armée au combat, aurait été perçue par les patriciens les plus conservateurs comme une vengeance des dieux. lesquels auraient ainsi vengé leurs noumen, nous dit le texte, et leurs auspicia, que les Romains n'avaient pas respecté, en confiant à un plébéien les auspices consulaires. C'est le dernier extrait de l'exemplié. Quand la nouvelle en vint à Rome, les patriciens grondent partout. Allons, qu'on nomme donc des consuls dans la plèbe, qu'on transfère les auspices à qui il est impie de le faire. Transferent auspicia quo nefas esse. Les patriciens ont bien pu se voir chassés par un plébiscite des magistratures qui leur appartiennent en propre, honoribus suis. Mais les dieux immortels ont-ils eux aussi reconnu quelque valeur à une loi votée sans auspice préalable ? Num etiam in deos immortales in auspicatam legem valuisse ? Eh bien non, ils ont vengé eux-mêmes leur puissance, leurs auspices, vindicasse ipsos suum numen sua auspicia. Car à peine avait-on porté sur eux, sur ceux-ci, une main coupable et impie, quae ut primum contacta sint ab eo aquo necius nec fas fuerit, l'armée avec son chef avait été anéantie. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup, chère Yann.
Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long, du coup, parce que j'ai pris mon temps.
Mais oui, mais écoute, c'est...
J'avais prévu d'aller plus vite, hein, je vous rassure.
On a le temps, on a le temps, donc c'est tellement rare qu'il faut en profiter. Très bien, merci en tout cas pour ce parcours. Juste peut-être d'abord une remarque sur ce que tu viens de dire à propos de la bibliographie. Je suis quand même toujours effrayée de voir que dans nos disciplines, contrairement à d'autres, il y a moyen de régresser.
Parle peut-être un peu plus fort.
Je disais, je vais prendre le micro, pardon. C'était juste une remarque globalement de méthode et d'inquiétude. Quand j'entends Yann évoquer les interprétations différentes. Alors évidemment, la conversation scientifique est quelque chose d'essentiel dans nos métiers, mais je trouve que contrairement à certains domaines des sciences, dans notre domaine, on a la capacité de revenir en arrière. C'est-à-dire que dans bon nombre de domaines, il y a des cliquets qui font qu'une fois qu'on a dépassé ce stade-là, qu'on a compris quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Je trouve que là, on a un cas où on va encore perdre un temps énorme à devoir discuter, à devoir contrer des interprétations qui nous ramènent en arrière. Je ne sais pas comment c'est ainsi que tu le ressens, mais du côté grec, on a nos propres problèmes, nos propres idoles polémiques, mais là, voilà, c'est un cas où il y a, comme tu dis, une espèce de poussée.
Oui, alors c'est d'autant plus dangereux que l'INSEE est super intelligente, hein, et donc elle connaît, c'est vraiment une philologue, et donc moi j'en ai parlé à Federico Santangelo qui est venu à Liège il y a pas longtemps, et on va essayer d'entrer en contact avec l'INSEE, parce que je pense qu'il faut qu'on se parle en fait.
Oui, tout à fait.
Voilà, faudrait qu'on arrive à faire des choses ensemble pour discuter. C'est quelqu'un qui apparemment est prêt à discuter, j'ai l'impression. Et donc, parce que si on continue comme ça sur deux planètes qui s'ignorent,
tout à fait,
j'ai un peu peur que ça fasse un peu comme la fonte des glaces et qu'on s'éloigne de plus en plus, sans compter les. Parce qu'on voit bien qu'il y a une école anglo-saxonne derrière, en fait. Hein,
voilà. Oui, mais on a le même, on a un problème similaire.
Enfin, donc voilà, moi, ma position, c'est de dire que... Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton introduction, Vincent.
C'est très inquiétant.
Moi, je suis pour discuter, si tu veux. Si on continue sur deux banquises qui s'éloignent, on va finir par, en fait, ne plus comprendre. Et donc, je pense que, pour ce qui est de ces questions de religion romaine, via Federico, on va réussir. Je lui ai demandé de souffler un peu, parce qu'il y a beaucoup de fer au feu, là, mais... On va essayer d'organiser ça pour se parler, en fait, plutôt que de se parler uniquement par compte rendu interposé, où chacun reste sur sa position. Au bout d'un moment, c'est stérile. Voilà. Donc, juste pour répondre...
Oui, on est tout à fait d'accord. Et je pense aussi qu'il ne faut pas généraliser, par exemple, du côté dit anglo-saxon, du côté de la religion grecque, quelqu'un comme Robert Parker n'est absolument pas dans cette tendance-là.
Oui, non, mais bien sûr, donc, voilà. Mais je ne généralisais pas.
Moi, je parlais de l'INSEE. Hein, oui, tout à fait. Mais je pense aussi qu'il y a des... Mais à partir du moment où, je dirais, le discours de quelqu'un d'aussi éminent, d'aussi compétent que Robert Parker n'arrive pas à passer, n'arrive plus à passer ces textes, parce que nous, bon, on écrit en français, on peut encore... Bon. Mais là, non, on est dans le cœur de la machine, et je trouve que c'est vraiment... Mais bon, on va en venir à nos questions d'autorité. Mais voilà, ça m'a vraiment frappé en t'entendant que les problèmes étaient les mêmes des... Enfin, je le savais, mais ça le confirmait dans les différents domaines. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'exercice de la verticalité, hein, puisque c'était un peu ça que tu nous as annoncé.
Il y a moyen d'approfondir plus, hein, évidemment, je le sais.
Alors, évidemment, l'idéal, c'eût été d'avoir cette mise en perspective par rapport aux travaux très, très intéressants de Carmine Pisano, qui lui aborde aussi, finalement, la question de l'autorité par le biais du vocabulaire, en mettant en évidence le mot grec exousia, et montrant, finalement, si je ne trahis pas sa pensée, que, en tout cas pour la période archaïque, enfin, dans la représentation de l'autorité dans la poésie archaïque, on a en fait avec exousia une légitimation qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que le roi est légitimé par les dieux. Hein, l'exousia, c'est ça, c'est le fait d'avoir une permission d'eux par un tiers-garant, on dirait, dans le langage du droit d'aujourd'hui.
Excesti, la racine, oui.
Voilà, exactement. Il est permis d'eux dans le sens où on a l'autorisation d'eux. Donc c'est un peu l'idée. Et c'est vrai qu'on voit que la grille d'analyse de l'autorité et du pouvoir de ce point de vue-là en Grèce et à Rome est vraiment très, très différente. Ne fût-ce que par l'usage d'un vocabulaire qui s'enracine dans d'autres logiques, encore que... À Oxano, j'ai été frappée de le retrouver dans un passage de l'Antigone de Sophocle où Créon dit « Voilà les nomoi par lesquels je vais augmenter la cité ». Donc on voit bien qu'on a aussi, quelque part, cette notion-là. Mais elle s'articule différemment avec la sphère suprahumaine, je pense. Donc, je regarde ce que j'avais comme... Question à te poser. Oui, évidemment, la question de la métaphore culturelle, on voit bien que ce n'est pas cette métaphore-là qui est utilisée du côté grec, même si on trouve quelques éléments dans l'usage du vocabulaire, mais ce n'est pas la même métaphore.
Oui, non, tu as raison, il y a quelques éléments. Et puis alors, ce que montre bien Hannah Arendt, c'est que les penseurs de la chose politique en Grèce, à commencer par Platon dans les Lois, dans la République, je ne sais plus si dans lequel des deux... particulièrement, quand il réfléchit à la figure du philosophe, il tourne autour de cette question d'autorité, hein, Platon, sauf qu'évidemment, il n'a pas le concept.
Non, voilà. C'est ça. Tout à fait. Il n'a pas le concept. Comme tu dis, il n'a pas le concept. Mais néanmoins, j'avais une question sur le caractère de contrainte. Alors, tu as partiellement répondu à la fin dans ta conclusion. Mais quand tu dis à un moment donné que les dieux... Donc, ont aux hommes une relation autoritaire non coercitive.
Ouais, j'ai pas tout à fait dit ça, mais...
Enfin, c'est parce que je l'ai noté au vol.
Il y a un moment, oui, j'ai relu Hannah Arendt qui dit ça.
Mais... Oui, voilà. Tu assumais en quelque sorte... Enfin, tu citais
mais
en tout cas...
J'ai reformulé juste derrière. Mais...
Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que, finalement, la notion d'auctoritas et de potestas... Elle marche quand même surtout dans le monde des hommes. Est-ce qu'on peut la transposer telle qu'elle ? Alors évidemment, on a l'auctoritas des auspices, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même une relation. Mais sur le rapport des dieux aux hommes, est-ce que ce vocabulaire-là est quand même, n'est pas problématique ? Parce que fondamentalement, et tu le disais à la fin, la coercition, elle est là. Si tu ne fais pas ce qui t'est indiqué, tu t'exposes à des problèmes considérables. Donc voilà, c'est un peu, si tu veux, ce rapport dans l'usage même du vocabulaire à la détermination du type de relation qu'on a avec les dieux.
Je te remercie pour ta question, Vinciane. Alors, quand je disais on peut aller plus loin, c'est ce que moi j'aurais voulu faire au moment où il a fallu que je te rende un résumé, évidemment bien avant de faire la communication, comme on le sait tous. Voilà. On connaît tous ce genre d'exercice. Et donc, il faudrait, pour vraiment traiter mon résumé que j'ai donné, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Pour étudier de près énormément de vocabulaire, voilà, hein, énormément d'occurrences, mais énormément de termes. Mais en fait, c'est compliqué. Hein. Il y a potestas, il y a imperium, il y a iussus, il y a auctoritas, bien sûr, augere, etc. Mais ce dont je me suis rendu compte quand même assez rapidement, malgré tout, c'est que, bien évidemment, les divinités romaines sont très puissantes. Elles ont beaucoup de puissance. Je dirais même qu'elles sont des puissances. Étant un peu parlé, elles en ont, elles le sont. Enfin, bon, ouais. Mais finalement, c'est pour leur domaine de compétence qu'elles l'ont surtout. Et donc, il y a la métaphore du magistrat, par exemple, si tu veux, ou du roi, ou du magistrat-roi. Bon. En fait, elle marche à fond pour la société des dieux, entre eux. C'est-à-dire que Jupiter, ben, c'est le magistrat-roi. Il y a les petits dieux là, étudiés par notre cher ami, qui sont la petite plèbe des dieux. Hein. Donc, je trouve que la métaphore humaine, elle marche très bien sur l'Olympe. Dans la relation, en fait, avec les hommes, j'ai un peu plus le sentiment, si jamais c'était vraiment vrai dans le vocabulaire juridique privé, mais en fait ça l'est pas, j'ai vérifié entre temps, mais c'est plus l'image du père. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, que le bâton, la fessée, la coercition, elle peut débarquer à n'importe quel moment. Hein, donc ce serait le point commun avec aussi, pour le coup, le magistrat. On voit bien qu'il y a beaucoup d'autorité parce que le bâton n'est pas loin. D'accord ? Voilà. Il n'en reste pas moins que le mode de fonctionnement le plus fréquent, me semble-t-il, des dieux vis-à-vis des hommes, c'est quand même, et là-dessus je crois qu'Anna Arendt a raison, elle dit de l'autorité plutôt que du pouvoir. Mmh. C'est juste qu'elle dit ils ont de l'autorité plutôt que du pouvoir. Je ne dirais pas ils ont, je dirais qu'ils exercent
manifeste.
Hein, le plus souvent, effectivement, plus fréquemment de l'auctoritas que de la potestas. Mais quand c'est nécessaire, la potestas, elle est quand même là. Alors j'allais dire, l'image du père, est-ce que ça peut fonctionner ou pas ? Bon, j'ai vérifié dans l'article de Julien Dubulose, dans le volume collectif sur auctoritas, là, hein, il en parle. Et en fait, il montre que l'auctoritas patris, c'est un sens très précis, en fait. Hein, c'est-à-dire, c'est l'auctoritas, c'est le consentement que donne le pater familias, qui n'est pas forcément le père biologique, hein, comme vous le savez, ça peut être le grand-père ou l'arrière-grand-père, en fait, au mariage des deux époux. Et alors, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que dans ce cas-là, en réalité, il ne peut pas exercer sa potestas. Je pense que c'est pour ça que c'est auctoritas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas exercer sa potestas ? C'est parce que il suffit que les deux époux, il suffit qu'il y ait consentement mutuel, pour le dire en termes modernes, pour qu'il y ait mariage, en fait. Donc, le pater familias ne peut pas s'opposer au mariage. Il peut juste se porter auctor ou pas du mariage. Et alors, apparemment, la conséquence, c'est sur les enfants issus du dit mariage, si j'ai bien compris ce que dit, parce que moi, dès qu'on rentre dans le droit privé, on entre dans une langue que je maîtrise formal. Je trouve ça extrêmement compliqué, technique. Je pense qu'il faudrait que je suive des cours. Non, mais sincèrement, mais ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. C'est que les enfants qui seraient issus d'un mariage auquel le pater familias n'a pas accordé son auctoritas ne pourraient pas rentrer dans la potestas du pater familias. Et donc, en fait, ça a des conséquences sonnantes et trébuchantes en termes d'héritage. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un sens très technique. C'est-à-dire que si je dis Jupiter est en fait un père de famille, ben c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai, dans le sens où on voit bien qu'un père de famille, dans les faits, il n'utilisait quand même pas au quotidien sa potestas vitae nequisque sur ses enfants et sur sa femme, d'accord ? C'était des cas tout à fait exceptionnels. Et donc, le reste du temps, son autorité, si vous voulez, suffisait. Mais si on regarde le langage technique concernant le père de famille, l'autoritas patris n'est attestée que dans le sens que je vous ai spécifié il y a quelques secondes. Vous voyez ? C'est pour ça que oui, j'ai envie de faire le rapprochement avec le père de famille, en même temps, je ne veux pas la faire parce que ça ne colle pas bien au niveau du vocabulaire. Par rapport aux magistrats, ça pourrait un peu marcher, c'est-à-dire qu'on voit bien que les magistrats aussi ont de l'autorité. Hein. C'est ce que j'ai développé moins dans mon livre, mais plus dans l'article auquel je faisais allusion dans le même ouvrage collectif. On voit bien que les magistrats ont de l'autoritas et que la plupart du temps, comme quand vous avez affaire à un policier, ça suffit, en fait. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas toujours besoin de mettre l'amende, de sortir le bâton. Vous voyez ? Bon. Et donc, peut-être que finalement, à la réflexion, c'est quand même la comparaison avec la magistrature qui fonctionne peut-être le moins mal. Mais évidemment, ça peut être que des approximations, des analogies, etc.